Et donc, on va ouvrir la parole de Dieu sur le sujet de la mission ce matin. Et j'aimerais avec vous lire dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. » Et ce sujet de prière que nous a laissé le Seigneur Jésus, 2000 ans après, est toujours d'actualité. Et nous voulons toujours prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson parce que la moisson, elle est grande. Elle est immense, mais il n'y a pas assez, il y a peu d'ouvriers. Et alors, le sujet de la mission est un sujet très vaste. On pourrait faire plusieurs dimanches à la suite pour aborder ce sujet. Mais ce matin, j'aimerais me focaliser sur un seul point en ce qui concerne la mission, c'est la nécessité de la compassion pour la mission. On ne peut pas envisager la mission sans compassion. On pourrait à la rigueur faire des actions missionnaires, on pourrait faire des œuvres missionnaires sans compassion, mais alors ça serait dénaturer complètement ce pourquoi elle existe. D'ailleurs, je ferai remarquer que Jésus nous a laissé ce sujet de prière. Lorsqu'il a vu la foule, il nous a dit qu'il a été ému de compassion. Et parce que Jésus a été ému de compassion devant cette foule languissante et abattue, c'est à ce moment-là, lorsqu'il a été ému de compassion, qu'il nous a transmis ce sujet de prière en disant « La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers ». Donc on voit vraiment que la compassion est au cœur de la mission. Et dans toute la parole de Dieu, on voit que du début jusqu'à la fin, Dieu cherche à nous transmettre sa compassion pour les nations. Dieu cherche à nous émouvoir afin que nous aussi nous soyons émus de compassion pour ces foules qui sont languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Et nous le voyons bien aujourd'hui, cette condition humaine, fatiguée, abattue, languissante, est toujours d'actualité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les nations sont languissantes et abattues. Il y a peut-être certaines nations qui vont un petit peu mieux que d'autres, mais d'une manière générale, les nations, les foules sont languissantes et abattues, et le Seigneur veut nous transmettre cette compassion qu'il a pour les nations. Nous le savons, Dieu a tant aimé le monde. Il l'a tant aimé. On le connaît par cœur. Ce verset de Jean 3,16, et c'est toujours un verset d'actualité dans son amour. Dieu le Père a envoyé son Fils sur cette terre afin de donner sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet esprit d'amour et de compassion encore aujourd'hui est valable, et c'est dans cet esprit-là, c'est dans cette compassion-là que le Seigneur aujourd'hui encore sensibilise son peuple afin que son peuple aille vers ces nations qui sont tourmentées, où l'injustice est là, où le péché abonde, où toutes sortes de bassesses existent, où la maladie fait des ravages, où la pauvreté et la souffrance sont le pain quotidien de beaucoup de personnes, et sans parler de toutes les autres atrocités qui s'y passent. Il y a de quoi à être ému de compassion. Lorsque nous voyons et nous lisons la parole de Dieu, nous voyons la compassion de Dieu qui prime avant toute chose. Lorsqu'il va parler à Moïse, il lui dira ceci: « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Dieu a vu la souffrance de son peuple et il n'y a pas été insensible. Et c'est dans cet amour qu'il a envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël de la dure servitude dans laquelle Pharaon et son peuple d'Égypte avaient plongé les enfants d'Israël. Lorsque l'apôtre Paul cherche sa route, à un moment donné, on voit qu'il tourne un petit peu en rond dans Actes au chapitre 16. Il veut aller en Bithynie, mais le Seigneur l'y empêche. Il veut aller ailleurs, là aussi, pareil. Il tourne un petit peu en rond, cherchant la direction qu'il doit prendre, jusqu'à un moment donné où il a eu cette vision qu'on appelle la vision du Macédonien, où il est dit ceci: « Passe en Macédoine et secours-nous ». Rien que ce verbe « secourir » nous parle vraiment de quelqu'un qui est en danger. Et là, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est en danger, mais c'est tout un peuple. Les Macédoniens passent en Macédoine et secourent. Ça en appelle à notre cœur et nous voulons comprendre que la compassion est nécessaire. Dans toute la parole de Dieu, on y voit l'amour et la compassion. Même la loi est empreinte d'amour. La parole de Dieu nous le montre bien. Toute la loi, nous dit l'apôtre Paul, est résumée en une seule loi: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et bien sûr, le premier commandement, eh bien, nous aimons et nous sommes appelés à aimer Dieu plus que tout. Et toute la loi dépend de cela. Donc la loi elle-même, la loi de Moïse, est empreinte de l'amour, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. L'amour de Dieu et la compassion de Dieu se voient dans les psaumes, elles se voient dans les proverbes, elle se voit dans les livres prophétiques, où c'est vrai qu'il y a dans les livres prophétiques des annonces de jugement. Il y a des annonces de jugement, il y a des annonces de condamnation, des annonces de châtiment. Mais toujours, Dieu fait prévaloir d'abord sa compassion. Toujours. Toujours. La miséricorde triomphe du jugement. Lorsque le Seigneur envoie son prophète Jonas à Ninive. C'est vrai que le message de Jonas est un message dur et sévère. Encore 40 jours et la ville de Ninive est détruite. Un message carré, très, très sévère, qui annonce un jugement et la condamnation qui va avec. Mais Jonas ne veut pas aller. Il ne veut pas aller à Ninive. Et il donnera la raison pour laquelle il ne veut pas y aller. Il la donne au chapitre 4. Et Jonas dit: « Je savais que tu es un Dieu compatissant. » Il le savait. Et ce que Jonas voulait, c'est que la ville de Ninive soit détruite. Ah, détruite, ces païens-là, ils vivent dans le péché, dans l'idolâtrie, ils commettent des mauvaises choses. Il faut qu'ils soient rayés de la carte. Veux-tu qu'on commande au feu du ciel de descendre sur eux et les consumer tous? C'est ce qu'avaient dit les apôtres. Donc on voit que les apôtres n'était pas animé de la compassion à ce moment-là, et Jonas non plus. Il était irrité, Jonas, et le Seigneur va faire pousser un petit arbuste là pour donner un petit peu d'ombre, pour enlever l'irritation de Jonas. On connaît eh bien cet épisode de ce livre prophétique. Et puis Jonas va se mettre en peine de ce richain là qui a séché rapidement et il a été frappé à la tête à cause du soleil. Et alors le Seigneur lui dit: mais toi tu t'irrites pour cela, pour ce richain qui t'a rien coûté, et moi je n'aurais pas compassion de cette ville où il y a ces milliers et ces milliers d'habitants qui ne savent même pas distinguer leur droite de leur gauche, qui ne savent pas distinguer le bien du mal. Et Dieu est un Dieu compatissant. Et Jonas avait besoin Il le savait, mais il avait besoin pour lui-même d'être empreint dans son cœur de cette compassion. De cette compassion. Oui, Dieu cherche à nous émouvoir, Dieu cherche à nous transmettre sa compassion. Même lorsqu'un jugement, même lorsqu'une condamnation s'est abattue sur une ville, sur une nation, Dieu encore exerce sa compassion. On le voit dans le livre des Lamentations de Jérémie, on sait que Jérusalem a été détruite. Et là, on voit le prophète Jérémie qui se lamente. Le prophète Jérémie est bien conscient que Jérusalem n'a pas écouté les avertissements prophétiques à son égard, ses appels à la repentance, à revenir à Dieu. Ils se sont enfermés dans la désobéissance, dans la rébellion. Malheureusement, eh bien, un jugement s'est abattu, mais les jugements de Dieu sont toujours aussi pour nous faire revenir à nous-mêmes, nous faire réfléchir. Et là, le prophète Jérémie ne se réjouit pas de la situation. Bien au contraire, il est là dans la peine et il dira ceci. « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les villes, dans les rues de la ville. » Il dira encore ailleurs, « La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséchée par la soif, les enfants demandent du pain et personne leur en donne. » C'est-à-dire que l'amour a disparu, la compassion a disparu. Le prophète Jérémie est là, il se lamente. Il dira encore, les jeunes hommes ont porté la meule, les enfants chancelés sous des lourds fardeaux. Alors, la situation, elle est là, et on ne peut pas dire, c'est bien fait pour eux. Ils n'avaient qu'à réfléchir, ils n'avaient qu'à s'attacher au Seigneur, c'est bien fait. Non, là encore, le Seigneur nous appelle à la compassion. Il nous appelle à la compassion afin que nous puissions réaliser que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, nous le voyons bien, la compassion est présente partout. La compassion est présente partout parce qu'elle a sa source elle a sa source en Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et nous voulons réaliser, les uns et les autres, que Dieu nous appelle à élargir notre cœur. Élargir notre cœur. Il ne peut pas y avoir de mission sans élargissement du cœur. Sans élargissement du cœur. Qui ouvre aussi nos yeux et qui nous aide à comprendre, on va parler tout à l'heure de ça, qui nous aide à comprendre quelle est la situation, mais aussi il y a dans la manière de vivre qui est différente dans certains pays, cette manière de vivre peut provoquer en nous une certaine, comment dire, répulsion. Peut-être on peut être même dégoûté de certaines choses qui se passent et de la manière dont se comportent les personnes dans certains pays. Mais puissions-nous élargir notre cœur afin que cette répulsion ne puisse pas, étouffer notre compassion, mais au contraire, que nous puissions apporter la lumière de l'Évangile, que le Seigneur nous aide. Puissions-nous élargir notre cœur et nous repentir si notre cœur s'est rétréci. Parfois, les disciples, les premiers disciples, les premiers apôtres même, ont manqué de compassion. Ce n'étaient pas des hommes meilleurs que nous, des hommes de la même nature que nous. Et ils ont fait preuve de dureté de cœur, parfois. Qui a repoussé les enfants qu'on amenait à Jésus? Qui? Était-ce les gens de la rue? Était-ce des parents? Les disciples. Et la mission, elle est envers tous. Je parlais tout à l'heure, j'ai cité quelques missionnaires, mais le travail parmi les enfants est un travail très important au sein de la mission. On pourrait dire, oh, c'est pas... on n'a pas le temps pour ça, il y a des choses tellement plus importantes. Non, on voit vraiment l'importance que Dieu attache aux enfants. Mais les disciples, ça les dépassait. Et faut bien comprendre la culture dans laquelle ils étaient à l'époque. Il faut bien comprendre. Et Jésus leur ouvre les yeux sur quelque chose, sur ce champ de mission que sont les enfants. Les enfants étaient, c'était après. Hein. D'abord les adultes, les enfants après. Mais le Seigneur leur dit même que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Mais ce sont les disciples qui, à ce moment-là, à cause de certains préjugés, à cause peut-être d'une façon de vivre, à cause de leur propre culture, n'ont pas pu exercer la compassion envers les enfants. Ils ont fait taire Bartimée. Bartimée l'aveugle, qui criait après Jésus. Ce Bartimée qui était là, qui vivait dans Jéricho. Et il entend parler de Jésus, et Jésus passe par là. Alors Bartimée, il crie. Alors, on le fait taire. C'est terrible quand même de faire taire quelqu'un qui est en train de prier, et qui est en train de déverser devant le Seigneur toute sa souffrance. Mais le Seigneur a appelé, eh bien, Bartimée. Qui a demandé à Jésus de faire taire la cananéenne? Les disciples, encore une fois. Les disciples ont essayé de faire taire cette une cananéenne en plus. Une femme, déjà, hein, et une cananéenne. Comprenez bien. Dans quelle culture on était à l'époque. Déjà c'était une femme, et on peut comprendre que eux, dans leur culture, dans leurs préjugés qu'ils avaient, et en plus c'était une cananéenne. Alors là, on a parlé de la femme samaritaine il n'y a pas longtemps, voilà, c'est à peu près pareil, la même situation. Et cette femme avait un problème, ça. Son enfant était cruellement tourmenté par un démon. Mais Jésus a béni cette femme et son enfant. Il y avait là des préjugés raciaux qui étouffaient leur compassion. Mais Jésus est passé au-delà de tout cela. On pourrait encore citer d'autres exemples où les disciples ont manqué de compassion. Je citais tout à l'heure cet exemple où les apôtres, notamment Jean, il en fait partie de cela. Jean, l'apôtre de l'amour, quand on lit les épîtres de Jean, on voit l'amour est partout dans ses épîtres, surtout dans la première épître, l'apôtre de l'amour, il a été surnommé ainsi. Mais cet apôtre de l'amour a dû apprendre ce qu'est l'amour, puisqu'il a fait partie de ceux qui ont dit « Seigneur, veux-tu qu'on commande au feu du ciel de descendre sur eux et de les consumer tous ?» Il ne savait pas de quel esprit il était animé à ce moment-là. C'est le moins qu'on puisse dire, ils ont manqué de compassion. Que le Seigneur élargisse nos cœurs. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 12, il est écrit que dans les temps de la fin, parce que l'iniquité va s'accroître, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Effectivement, quand l'iniquité et l'injustice grandissent, c'est chacun pour soi. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Alors, il est fort possible, sans que je joue au prophète ni rien, mais puisque c'est ainsi, puisque Jésus l'a dit, puisque dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, cela va donc directement impacter la mission de l'Église. Ça va directement impacter la mission de l'Église, car le moteur de la mission, c'est la compassion, c'est l'amour. Si l'amour se refroidit, les missions vont aussi se refroidir. Ou alors, on fera les choses par obligation, comme Jonas qui a été obligé quand même d'aller à Ninive, ou on les fera par habitude ou par routine. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9, euh, verset 16. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. On peut les faire les choses, je vais le dire d'une manière obligée, ou on peut les faire, comme dit l'apôtre Paul, de bon cœur. De bon cœur. La mission n'est pas une option dans la vie chrétienne. Ce n'est pas une option dans la vie de l'Église. C'est comme dans les voitures, vous savez, il y a des outils qui sont optionnels, hein. Il y a ce qui est indispensable, comme les essuie-glaces, les rétroviseurs, et puis après, vous avez d'autres choses qui sont optionnelles, qui sont secondaires, qui ne sont pas obligatoires. Mais voilà, la mission, ce n'est pas optionnel. La mission, c'est vraiment dans le cœur de l'Église, c'est la vocation de l'Église. Si une Église n'a plus cette vocation missionnaire, Ça reflète un état de cœur qui n'est plus ce qui devrait être. Un état de cœur qui n'est plus la compassion, peut-être comme l'église de Laodicée qui s'était attiédie. Là, c'est vraiment dans la vocation de l'église, la mission est dans la vocation de l'église. Pas comme quelque chose, bien sûr, c'est quelque part, oui, c'est imposé, mais nous le faisons de bon cœur. Nous le faisons de bon cœur parce que nous aimons, et Dieu nous appelle à aimer même notre ennemi. Cette mission, comme je le dis, qui commence à notre porte, là où nous vivons, là où nous sommes, bien sûr que nous ne sommes pas tous appelés à quitter notre pays, à aller dans un autre pays, mais déjà, ça commence à notre porte, dans notre quartier. Nous sommes en mission dans notre quartier. Là, il y a tellement à faire, tellement à faire. Je regardais encore, je regarde régulièrement le quartier de Sainte-Agne. Je dis, mais waouh, tout ce qu'il y a à faire à Sainte-Agne, c'est énorme. Hein, quand on voit dans les rues de Sainte-Agne, rien que ce quartier-là, c'est énorme. La moisson, elle est grande, hein. Mais il y a peu d'ouvriers. Alors, bien sûr, il y a la mission au loin, et Dieu appelle certains à quitter leur pays pour annoncer l'Évangile là où il n'est pas annoncé, là où il est sous-annoncé. Et nous voulons soutenir ces frères et ces sœurs qui y vont, les soutenir dans la prière, entrer en mission avec eux, être ouvriers avec eux, et nous voulons le faire de bon cœur. Nous voulons le faire de bon cœur. Il n'y a pas de compassion possible, je ne pense pas, sans compréhension. Sans compréhension. Il nous faut bien comprendre dans quelle situation sont les personnes. Discerner dans quelle situation. Lorsque nous comprenons dans quelle situation sont les personnes, même nos ennemis, cela génère en nous de la compassion. D'où l'importance de savoir. Lorsque cette femme dans l'Ancien Testament est venue trouver le prophète Élisée, elle avait perdu son fils, elle l'avait eu d'une manière tout à fait miraculeuse, et voilà que son fils meurt, probablement une méningite, on ne sait pas trop. Il a eu mal à la tête et il est mort. Et elle disait à tous ceux qu'elle croisait, tout va bien, tout va bien. Elle arrive devant le prophète Élisée, et il y avait son serviteur Géasi qui était là. Oh, comment, là encore, une femme qui vient trouver le prophète Élisée, il a voulu la repousser, Géasi. Et là, Élisée dira ceci, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, l'Éternel me l'a cachée, ne me l'a point fait connaître. » Et ne le sachant pas, voilà. Mais là, cette femme était dans l'amertume, malgré qu'elle disait « tout va bien », elle était dans l'amertume, elle était dans la souffrance, dans la douleur, elle venait de perdre son fils, et on sait que Dieu va exaucer la prière d'Élisée, et cet enfant va revivre. Donc il est important de savoir et de comprendre dans quelle situation sont les personnes. Et c'est pour cela qu'il y a des informations missionnaires, c'est pour ça qu'il faut aussi nous informer eh bien, de ce que les gens vivent au quotidien. Il y a des drames, il y a des douleurs qu'on ne sait pas, c'est caché. Que Dieu nous aide à savoir, à discerner, à comprendre. Et pour comprendre, je ne pense qu'il ne faut pas juger selon les apparences. On le voit, j'ai cité quelques cas depuis tout à l'heure, la femme cananéenne, cette femme, les gens qui apportaient des enfants à Jésus, ou cette femme qui vient pleurer aux pieds de Jésus. Là encore, il y a eu un jugement selon les apparences, par manque de discernement et de compréhension. On pourrait multiplier les exemples. On pourrait donner encore cet exemple de cette femme, Anne, la future maman de Samuel, qui déversait son cœur devant l'Éternel et qui, le vieux sacrificateur Élie, qui ne comprenait rien, il pensait que cette femme avait bu un coup de trop, qu'elle était ivre. Là encore, son cœur était fermé, son cœur était dans la condamnation, dans le jugement, parce que il le regardait, il jugeait selon les apparences. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à ne pas juger selon les apparences. Même notre ennemi a le droit à notre compassion. Le Seigneur nous fait comprendre certaines choses et pour cela, eh bien, il nous fait passer par certaines expériences personnelles afin que nous puissions considérer et comprendre ce que vivent les personnes qui sont autour de nous et ceux qui sont au loin. Et bien sûr, après la compréhension, il y a bien sûr l'action. Il y a l'action. Car ça serait terrible de savoir, ça serait terrible de comprendre sans agir. Nous avons connu l'amour, dira l'apôtre Jean, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Jésus a agi. Il a vu et il a agi. Il a été ému de compassion et il a agi. Et l'apôtre Jean dira, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il va loin, hein, Jean. Nous devons donner notre vie pour les frères. L'apôtre Paul dira, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dira même, je pourrais donner toute ma nourriture pour les pauvres. Vous voyez, on peut faire des choses qui apparemment sont bien, mais si je le fais sans amour, comme quoi on peut même faire une mission sans amour. On peut le faire par habitude, on peut le faire par routine, on peut le faire pour une gloire humaine, on peut le faire par obligation, mais sans amour. Et si je le fais sans amour, je ne suis rien. Et ce que nous faisons est empreinte et vient d'un cœur qui est rempli d'amour, rempli d'amour. Jacques dira, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Et encore dans les Proverbes, « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne nous voit-il pas ? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas ? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ?» Donc on voit que vraiment Dieu nous invite à l'action. Il nous sensibilise, il nous émeut, il nous transmet sa compassion, mais pas simplement pour qu'elle reste inactive et là simplement qu'on s'apitoie en disant « Oh les pauvres !» mais qu'on puisse étant ainsi saisis, émus de compassion comme Jésus l'a été, nous puissions agir d'une manière concrète afin que nous puissions apporter l'Évangile, parce que nous connaissons la puissance de l'Évangile. C'est le salut pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et quiconque croit en cet Évangile, il est sauvé. Nous connaissons la puissance de l'Évangile. Ce qu'il peut faire, il transforme les cœurs. Les cœurs les plus tordus, ceux qui sont vautrés dans la boue du péché, Dieu les transforme, Dieu les libère, Dieu les sauve, et leurs noms sont inscrits dans les cieux. Alors nous voulons transmettre ce message, et avec ce message aussi transmettre tout ce qu'il y a avec. Il y a la parole, il y a les actes, que Dieu nous aide. Alléluia. Ému de compassion encore, Jésus a touché les yeux des aveugles, et ils ont retrouvé la vue. Retrouvé la vue. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Que le Seigneur nous emploie les uns et les autres dans son œuvre qui est merveilleuse, afin que nous puissions comprendre que nous sommes tous en mission. Alléluia. Nous sommes tous des missionnaires. Là où nous sommes, que Dieu vous bénisse les uns et les autres. On va ensemble remercier notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur de nous rappeler ces choses, Seigneur, et encore de nous transmettre ta compassion. Savons que ta compassion peut mettre un lourd fardeau dans nos cœurs, mais il n'y a rien de plus agréable que ce fardeau de l'amour. Seigneur, tu nous as dit que nous recevrons sur toi, sur nous, tes instructions, Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui nous est transmise, pour ton esprit qui nous est transmis, pour ton cœur qui nous est transmis, Seigneur. Et nous voulons veiller à ce que cet amour brûle toujours fort, Seigneur, à ne pas nous laisser aller à l'ambiance actuelle où nous voyons l'amour qui se refroidit de plus en plus. Nous voulons rester bouillants pour toi, Seigneur, pour les âmes perdues, pour nos frères et sœurs aussi en la foi, qui sont persécutés de par le monde. Seigneur, tu soutiens nos frères et sœurs aussi, ceux que nous avons cités tout à l'heure, dans leurs actions, dans tout ce qu'ils peuvent faire, dans leur contexte, dans les pays où tu les as envoyés. Ouvre-leur des portes, soutiens-les par ton esprit. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à toi pour tout ce que tu fais. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Et ton nom est tout puissant. Béni sois-tu, Jésus. Amen.